podcast.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste et ensemble nous allons tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. Aujourd'hui, direction l'espace, c'est le terrain de recherche qu'a choisi notre invité. Il est historien et c'est une autre histoire que celle de la conquête spatiale qu'il va nous raconter, celle de la naissance de la communauté des juristes de l'espace. Bonjour François Rullier.
Bonjour.
Alors vous êtes doctorant en histoire au laboratoire Framespa de l'Université Toulouse Jean Jaurès, agrégé d'histoire, chargé de cours à Sciences Po Toulouse. Et c'est donc du sujet de votre thèse dont on va parler aujourd'hui. L'idée de créer des règles, François Rullier, un droit de l'espace, est-ce que c'est né en même temps que les débuts de la conquête spatiale, c'est-à-dire dans les années 50?
Alors l'idée en soi, elle est née un peu avant puisqu'elle est née dans les réflexions des juristes. Donc c'est dès le début des années 50. Le premier article, celui qui est considéré comme tel, il date de 51. Donc à ce moment-là, les États n'ont même pas encore déclaré qu'ils voulaient envoyer des satellites. Et ensuite, d'un point de vue politique, c'est-à-dire lorsque les États l'envisagent, on est au début de l'année 57, donc quelques mois avant le début de la conquête spatiale. Et avant donc le 4 octobre 57, qui est l'envoi du premier satellite artificiel.
Qui est russe.
Qui est russe.
Le fameux Spoutnik. Alors pourquoi les juristes se sont dit « Tiens, il va falloir créer des règles ». Par rapport à l'espace?
Eh bien déjà parce que ce sont des juristes et que les juristes ne supportent pas l'idée qu'il n'y ait pas de règles. Ils ne le supportent pas aussi pour une raison très, très concrète, c'est que s'il n'y a pas de règles, tout est permis. Et si tout est permis à une époque où il y a des États en concurrence, en opposition, on est dans une période de guerre froide, des États qui disposent de l'arme nucléaire, c'est très risqué. Donc mettre en place des règles, c'est s'assurer, en tout cas essayer de se garantir contre les risques d'escalade militaire, qui, à une époque d'apocalypse nucléaire potentielle, doivent absolument être évités.
Donc les juristes dont vous parlez, ce sont essentiellement des Américains?
Eh bien non, non, non. Alors, effectivement, les Américains sont assez importants dans cette communauté de juristes en création, mais il n'y a pas que des Américains, il y a aussi des Européens, il y a également des Soviétiques et des juristes du Bloc de l'Est, mais aussi des juristes qui viennent notamment d'Amérique latine, du Japon, d'Inde, et qui sont repris aussi par leurs collègues. Ce n'est pas juste des juristes un petit peu en marge. Non, en fait, ce sont des juristes aussi importants à l'époque.
Dans votre travail de thèse, François Rullier, vous avez à cœur de regarder cette histoire à la fois de la guerre froide et à la fois de la conquête spatiale, finalement, sous l'aspect aussi de l'imaginaire, cette confrontation entre deux imaginaires, celui des juristes et celui des astronautes du monde du spatial qui s'en va à la conquête de l'espace. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux imaginaires?
Plutôt que deux imaginaires différents, je dirais qu'il y a plutôt une conjonction entre ces imaginaires. C'est-à-dire que les astronautes, ils peuvent faire partie d'un imaginaire assez hégémonique qui est cette idée que la conquête spatiale, c'est le destin de l'humanité, une forme de fatalisme un peu technologique. La technologie va nous y amener, donc c'est pour le mieux. Les juristes sont complètement imprégnés de cette idée. Donc en soi, ils partagent ce même imaginaire qui est un imaginaire qu'on pourrait qualifier de technoscientifique. Donc cette idée que la technologie est au centre du progrès de l'humanité, terme de progrès qui est aussi à mettre entre guillemets, à réfléchir sur le plan historique. Donc ça, ils le partagent. Par contre, en tant que juristes, ils ont aussi leur propre culture, qui est une culture disciplinaire, qui est ce dont je parlais tout à l'heure, cette idée par exemple qu'il faut du droit, que l'absence de droit, c'est le risque de guerre. Ils sont aussi, ces juristes, porteurs d'une certaine culture historique juridique, puisque ce sont des juristes qui viennent notamment du droit international, qui a lui-même ses propres pionniers, ses grandes figures, et qui sont aussi des figures qui sont perçues comme des figures qui ont proposé l'existence d'un droit en dehors des États, au-delà des États, au-dessus même des États. Donc ces juristes vont se dire, la conquête spatiale, c'est le destin de l'humanité, le droit doit s'imposer contre les États pour garantir la paix, et c'est donc une conjonction entre ces deux cultures-là, entre ces deux imaginaires, l'imaginaire d'un droit supranational et l'imaginaire d'un destin de l'humanité dans l'espace, qui vont se croiser.
Les sources sur lesquelles vous travaillez, ce sont les textes de droit, du coup?
Alors, ce sont les textes de la doctrine juridique, c'est-à-dire donc ces réflexions que les juristes proposent. Ce qui est différent du texte de droit en soi, le droit positif, c'est le droit qui est appliqué. En droit international, c'est donc du droit entre États, interétatique. Moi, ce que j'étudie, c'est surtout la doctrine, c'est-à-dire les articles, les ouvrages de droit qui sont écrits par ces juristes et qu'on retrouve dans énormément de revues. J'ai un peu plus d'une centaine de revues qui, pour le coup, sont aussi bien, comme je le disais, états-uniennes, européennes, latino, Alors, aussi du bloc de l'Est, parce qu'à l'époque, la chance que j'ai, c'est que le français et l'anglais restent des langues de travail. Et donc, on a souvent des articles qui sont écrits aussi en français par des juristes bulgares, polonais ou russes. Donc bon, moi, ça me permet quand même d'y avoir accès, parce que sinon, je ne parle pas toutes les langues du monde, malheureusement.
Vaste documentation, en tous les cas. Et le premier grand texte, justement, de droit international sur l'espace, il date de 1967. Mais là, on est 10 ans après le lancement du premier satellite russe, en l'occurrence, là, le Spoutnik. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont mis un temps fou à se mettre d'accord avant d'établir un texte commun ?
Alors, le traité de l'espace, donc de 67, qui est élaboré en 66, c'est effectivement le premier traité de droit international public. En revanche, il y a déjà des résolutions de l'ONU, des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, avant, et même assez tôt en réalité. Donc, l'une des plus importantes et des premières, c'est la résolution 1721-16, donc de 1961, donc 4 ans après, qui déjà pose quelques-uns des principes importants dans l'espace, et qui rappelle par exemple que dans l'espace, la charte des Nations Unies s'applique. Donc en fait, il n'y a jamais eu de vide juridique dans l'espace. C'est ce que disent bien les juristes. La charte des Nations Unies s'applique à tous les États qui vont dans l'espace. Donc en fait, il y a déjà du droit. Et c'est aussi dans cette résolution qu'on va avoir l'idée qu'on a une liberté d'accès à l'espace. Donc on ne peut pas interdire à des États de s'y rendre. Et que l'on a ensuite assez rapidement aussi une volonté d'interdire l'appropriation nationale dans l'espace. Donc en réalité, en termes de droit, on attend bien 67, mais en termes de résolutions qui n'ont pas tout à fait le même statut juridique, c'est-à-dire que ce n'est pas du droit international, la résolution, c'est plutôt une recommandation. Ce qui est d'ailleurs aussi un débat à l'époque de quelle est la valeur d'une résolution. Mais donc il y a quand même bien un accord des États à travers ces résolutions, puisqu'elles sont votées par l'Assemblée générale, donc par les États. Et ça, donc dès le début des années 60.
Les grands principes que pose ce texte, c'est ceux que vous venez de me citer.
Voilà, liberté d'accès à l'espace, pas d'appropriation nationale dans l'espace, ce sont les deux grands principes.
Alors là, on est à la fin des années 60, mais évidemment, la technologie évolue, l'histoire de la conquête spatiale, elle évolue aussi. Il y a les télécommunications, il y a plein de développements technologiques dans l'espace. Du coup, est-ce que le droit y suit cette évolution ?
Eh bien, moi, ce que je défends, c'est que le droit, non seulement il suit, mais même il l'anticipe. Puisque dans le droit, lorsqu'on parle de non-appropriation, de non-souveraineté dans l'espace, c'est qu'on a l'idée que l'humanité va s'installer sur la Lune, sur Mars, on en parle, et qu'elle va fonder des colonies. Actuellement, c'est pas le cas. Ça signifie que le droit a anticipé, et le droit a déjà une réponse le jour où on construira une base sur la Lune.
Et alors c'est quoi sa réponse ?
Pas d'appropriation, pas de souveraineté nationale, mais par contre l'État, eh bien, un petit peu à l'instar du droit de la mer, l'État serait souverain sur la base qu'il fonde, mais il n'est pas souverain sur le territoire sur lequel se trouve la base. Donc comme sur un bateau, si vous commettez un crime dans un bateau, eh bien vous êtes sujet au droit de l'État pavillon, mais par contre, vous ne possédez pas la mer.
Il y a un aspect également qu'on avait évoqué en préparant ce podcast, l'espionnage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est perçue la notion d'espionnage dans le droit international ?
Alors, dans le droit de l'espace, en tout cas, le grand débat qu'il va y avoir autour de la notion d'espionnage, c'est est-ce que l'espionnage est licite ou non ?
Espionnage, c'est via les satellites, oui. On est d'accord.
Ouais. Voilà, ce qui est d'ailleurs l'intérêt premier, si ce n'est principal, de l'espace pour les militaires, c'est l'espionnage. En droit international, normalement, dans les résolutions des Nations Unies et dans le traité de l'espace, il y a l'idée qu'on utilise l'espace à des fins pacifiques. Est-ce que l'espionnage va à l'encontre des fins pacifiques ? Donc, est-ce que pacifique veut dire non militaire ou est-ce que pacifique veut dire non agressif ? Les Américains vont défendre plutôt la notion de non agressif, donc l'espionnage ne serait pas agressif, par conséquent il serait licite, et c'est aussi la raison pour laquelle on défend la liberté d'accès à l'espace. Dès lors qu'on considère que l'espionnage n'est pas agressif et qu'on a le droit d'accéder à l'espace, eh bien on a le droit d'envoyer des satellites espions. Les Soviétiques vont dire non, l'espionnage c'est une atteinte à la souveraineté de notre État, c'est donc agressif, c'est donc non pacifique, et donc ça doit être interdit. Ça, c'est la position soviétique jusqu'à ce qu'ils soient capables eux-mêmes de mettre en place l'espionnage par les satellites. Dans ce cas, ils vont trouver un compromis avec les Américains. Sachant qu'en réalité, c'est même un peu plus intéressant parce que l'espionnage, ce n'est pas uniquement quelque chose de caché, c'est aussi une proposition d'Eisenhower dans la logique d'Open Skies qui est de dire, bon, États-Unis comme soviétiques sont en train de développer des arsenaux balistiques, des missiles intercontinentaux, c'est-à-dire une capacité à détruire le voisin à l'aide de missiles. C'est embêtant parce que ni l'un ni l'autre n'ont connaissance de la réalité de ces arsenaux. Donc c'est la course. C'est ça, la course. En fait, si on fait la course, c'est qu'on ne sait pas où en est l'autre, et donc on va être au-dessus de lui. Si on autorise l'espionnage, si on en fait une arme, enfin même pas une arme, si on en fait un mécanisme international, ça permet en fait aux Soviétiques comme aux Américains de savoir quel est cet arsenal, et donc de limiter la course, donc même d'arrêter la course. Dès lors qu'on sait qu'on a atteint un équilibre stratégique, il n'y a pas besoin en fait de continuer la course. Donc Eisenhower va proposer que l'espionnage devienne un mécanisme de contrôle international reconnu et légitimé par les deux grandes puissances. Bon, du coup, les Soviétiques vont le refuser pendant un certain temps. Mais donc voilà, c'est pas que quelque chose de caché, loin s'en faut.
Vous me disiez, François Rullier, que le traité juridique international de 1967 avait anticipé pas mal de choses. Revenons au grand projet d'Elon Musk, qui est d'aller s'installer sur Mars d'ici quelques décennies, dans pas très longtemps, 2060 je crois. Il veut y amener 1 million de personnes. Est-ce que le droit prévoit ça? Est-ce qu'il a le droit de le faire?
Eh bien, le droit considère que toute activité dans l'espace est soumise à la responsabilité de l'État qui l'autorise. Donc en fait, si Elon Musk veut aller sur Mars, on peut supposer qu'il le fera avec les États-Unis, enfin avec l'accord des États-Unis. Ça signifie que ce sont les États-Unis qui sont légalement responsables sur le plan international. Or, les États-Unis ont ratifié le traité de l'espace qui interdit toute souveraineté ou appropriation nationale. Donc normalement, Elon Musk ne peut pas faire ça. Par contre, il est vrai qu'actuellement, les États-Unis, depuis 2015 et le Space Act de Obama, ont donné une nouvelle interprétation, une nouvelle, en tout cas, vision de ce droit de l'espace qui est en train de rogner sur cette logique de non-appropriation. Donc, en réalité, avec le Space Act de 2015 et surtout avec les accords Artemis, on pourrait commencer à avoir une forme d'appropriation, puisque les accords Artemis, qui sont en fait ces accords qui vont accompagner le retour de l'humanité sur la Lune, mené par les Américains. Dans ces accords Artemis, vous avez l'idée que lorsque vous installez une base sur la Lune ou ailleurs, vous êtes légitime à interdire l'accès au périmètre autour de cette base aux autres États, ce qui ressemble beaucoup à une forme d'appropriation. Donc, est-ce que avec cette vision du droit de l'espace, on ne pourrait pas en fait avoir une forme d'autorisation?
Mais ça a été ratifié par l'ONU, par exemple?
Non, et c'est aussi une des grandes logiques assez différentes, c'est que du temps des années 60, on a deux blocs et il faut que les deux blocs se mettent d'accord. Et bien en fait, on n'a plus cette logique-là. C'est-à-dire que les Américains ont une vision unilatérale du droit de l'espace avec leurs alliés. Donc c'est-à-dire tous ceux qui ont ratifié les accords Artemis, finalement, donnent l'aval à cette interprétation du droit. La France en fait partie. Tandis que, par exemple, le grand adversaire actuellement dans l'espace, la Chine, n'a pas ratifié, n'est pas invité à ratifier d'ailleurs. Donc on n'est plus dans cette logique de compromis.
C'est une logique un petit peu plus dangereuse, celle-là.
Je pense, mais...
Est-ce que le droit international a prévu quelque chose par rapport à une rencontre extraterrestre, François Rullier?
Alors, le droit international positif, les textes, non. Ça n'a pas été mis en place, même si ça a été discuté à l'ONU. Certains représentants de certains pays ont posé la question à l'ONU. Par contre, les juristes, eux, y ont beaucoup pensé. Alors, pas tous, évidemment, ça reste un sujet qui est un peu en marge, mais pas tellement en marge en réalité. Pour justifier un petit peu ce que je dis, c'est que vous avez des organisations internationales de juristes à l'époque. Bon, par exemple, vous avez l'International Law Association, vous avez l'Institut de droit international, vous avez l'Association interaméricaine du barreau, vous avez plein d'organisations qui regroupent des juristes, des barreaux de différents pays. Et certains des textes que ces organisations vont publier parlent de l'éventualité d'une rencontre avec une vie extraterrestre intelligente et ce qu'il faudrait faire. Donc ça signifie que ce n'est pas qu'une marotte de quelques juristes un peu marginaux, d'autant plus que l'un des juristes qui va le plus s'y intéresser s'appelle Andrew Gallagher Halley, qui est américain, qui est à la tête de la Fédération Astronautique Internationale, qui encore aujourd'hui est une organisation assez importante dans le milieu spatial, et lui va développer un concept qu'il va appeler le métadroit, métallo, pour imaginer de créer un droit international qui serait non pas humain, non pas anthropocentrique, mais qui pourrait s'appliquer à toute espèce intelligente.
Intergalactique.
Oui, d'une certaine manière. Bon, certains juristes vont à l'époque se moquer un peu en disant que c'est plus de la philosophie qu'autre chose, mais d'autres au contraire vont le prendre très au sérieux et vont vraiment en discuter. Et on a toute une réflexion sur comment on fait en sorte que si on rencontre une vie intelligente extraterrestre, eh bien on ne reproduise pas une forme de colonisation. Parce qu'on est dans un contexte au contraire de décolonisation, et ces juristes ont vraiment à cœur d'imaginer une colonisation spatiale qui ne serait pas colonial au sens terrestre, au sens historique.
On est allé très loin, François Rulli, on va revenir sur Terre. On a une petite tradition dans On Air, c'est de vous demander un conseil de lecture, d'expo, film, série, ce que vous voulez, ce qui vous inspire, que vous aimeriez en tout cas conseiller à celles et ceux qui nous écoutent sur le sujet qu'on vient d'évoquer. Quel serait le vôtre ?
Eh bien, moi, je conseillerais For All Mankind, qui est une série de 2019. Et pourquoi elle est intéressante, je pense, parce que c'est une série d'histoires...
For all mankind.
Mankind. Voilà, pour toute l'humanité, qui est en fait un terme qu'on retrouve dans les textes de l'ONU.
Ouais.
C'est souvent la conquête spatiale pour toute l'humanité, for all mankind. Et en fait, c'est vraiment intéressant parce que c'est de l'histoire contrefactuelle. On prend l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, on modifie un élément et on essaye d'imaginer ce que ça pourrait donner. Et ça, c'est intéressant, alors non seulement pour le petit plaisir d'imaginer un autre scénario, mais c'est aussi intéressant dans une démarche historique, et peut-être que je pourrais conseiller une lecture en parallèle, qui est une lecture académique, qui est pour Une histoire des possibles, qui a été publiée en 2016, et c'est un livre de Deluermoz et Sangaravelu, qui sont deux historiens assez importants aujourd'hui, et qui disent justement que faire de l'histoire, c'est souvent faire en réalité une forme d'histoire contrefactuelle dans sa tête. C'est-à-dire que quand on sous-pèse les causes ou les facteurs de tels phénomènes, en fait, la seule façon de le faire mentalement, c'est d'imaginer qu'il n'ait pas eu lieu. Qu'est-ce qui se serait passé si ce facteur-là n'avait pas eu lieu ? C'est ce que fait la série. C'est ce que fait l'histoire contrefactuelle. Et d'une certaine manière, c'est aussi un peu ce que je fais dans ma thèse en imaginant ce aurait été quoi cette conquête spatiale que les juristes auraient voulu et qui n'est pas devenue.
Un très grand merci, François Rullier, d'avoir accepté notre invitation. On Air est une production de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. Réalisation Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse-Jean Jaurès, et est accessible via le site www.univ-tls2.fr de l'université. Et vous retrouvez bien sûr On Air sur les différents comptes de l'UT2J et les plateformes numériques. On Air.